Le texte que je voudrais regarder avec vous, donc vous l'avez déjà vu sur le bulletin, c'est le texte de 1 Pierre au chapitre 1, versets 3 à 9, que j'ai intitulé « La joie dans les épreuves ». Et j'aime bien illustrer les prédications avec des images tirées d'Internet. Et pour illustrer la prédication d'aujourd'hui, j'ai choisi, si mes souvenirs sont exacts, Paul et Silas en prison. Et Paul et Silas en prison étaient en train de louer Dieu. Vous les voyez un petit là ? Alors, si je me rappelle bien, c'est ça, mais en tout cas, parler de la joie dans les épreuves, ça me fait parler à l'expérience, ça me fait penser à l'expérience de ces deux hommes qui louaient le Seigneur alors qu'ils venaient d'être arrêtés, qu'ils étaient emprisonnés avec des entraves, et puis ils louaient le Seigneur. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 9, le texte est court, donc nous allons le lire ensemble. Donc je lis dans la Bible du Semeur. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce beau passage, et comme nous l'avons chanté, que ta parole puisse nous interpeller, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous rappeler les réalités de l'espérance chrétienne. Seigneur, dans un monde qui est profondément affecté par le péché, qui est marqué par la corruption, nous avons besoin de cet encouragement que nous apporte cette espérance chrétienne. Qu'elle soit toujours vivante dans notre vie, dans notre cœur, et qu'elle puisse nous soutenir, Seigneur, nous t'en prions. Amen. Alors la joie dans les épreuves, Paul et Silas, comme on vient de le mentionner, ont été arrêtés, mis en prison. Il y a de quoi être découragé. Il y a de quoi se poser des questions. Hein. Seigneur, est-ce que c'était vraiment ton plan, t'sais ? Il y a de quoi être découragé, il y a de quoi être déprimé. Il y a de quoi même, dans les épreuves, être profondément affecté, même émotionnellement ou psychologiquement. Après les inondations de cette semaine, j'ai écouté un psychologue qui parlait des conséquences qui peuvent affecter ceux qui subissent de telles épreuves. Mais dans ce passage, il est question aussi de l'espérance et de la joie. Il est question d'épreuves, bien sûr, mais il est question aussi d'espérance et de joie. Et je crois que si on voulait peindre un tableau pour illustrer ces quelques versets, je pense que le tableau ne serait pas gris. Il serait plutôt coloré. Et je pense que le tableau comprendrait même des couleurs vivantes, tu sais, pour exprimer l'espérance du chrétien. Premier élément que je voudrais regarder avec vous ce matin, c'est tout d'abord la source de notre joie. C'est toujours important d'identifier la source de la joie. Il y a des joies dont la source est superficielle. Des joies qui sont aussi superficielles, bien sûr. Si la source est superficielle, la joie n'est pas une joie très très solide, très très enracinée. Mais il y a des sources de la joie qui peuvent réellement transformer nos épreuves radicalement. Et quand on est chrétien, souvent, nous nous habituons à l'expérience du salut, nous habituons au message, mais pourtant, ce message perd de son impact. Et souvent, c'est ce qui arrive quand on s'habitue à quelque chose. Et loin de nous l'idée de nous habituer à la grandeur du salut de l'Évangile et aussi à la grandeur de la compassion de Dieu. Alors on va regarder la source de notre joie et essentiellement on va énumérer les versets 3, 4 et 5 dans cette première partie. Verset 3 qui nous dit que Dieu nous fait naître à une vie nouvelle. Verset 4 qu'il a préparé pour nous un héritage extraordinaire. Et verset 5, ce Dieu nous garde. Alors on va méditer ces trois éléments. Dans la deuxième partie de cette présentation, je voudrais insister sur la joie malgré l'épreuve. Alors la première partie, comme vous allez le voir à l'écran tout à l'heure, la source de notre joie. Et la deuxième partie, la joie malgré l'épreuve. C'est contradictoire, c'est un paradoxe. Ce n'est pas le seul paradoxe dans la Bible. Il y en a bien d'autres. Et celui que vous connaissez peut-être le plus, c'est à la fois la souveraineté de Dieu et non pas la liberté humaine, mais la responsabilité humaine. Donc il y a un paradoxe. Il y a beaucoup de paradoxes dans la Bible. Donc dans cette deuxième partie, durant laquelle je vais vous présenter la joie malgré l'épreuve, bien, je voudrais encore une fois suivre les versets. Les versets 6, 7 et 8. Verset 6, les épreuves éprouvent notre foi. Le verset 7 nous parle de la valeur de notre foi. Et en des termes assez surprenants d'ailleurs. C'est, notre foi est importante, elle a de la valeur. Et le verset 8 va souligner, pour résumer un petit peu cette section, la joie dans l'épreuve. Et on va faire quelques petits commentaires à ce niveau-là. Et pour terminer, eh bien, je vais donc continuer à suivre ces versets, et on arrive au verset 9, hein, on complète notre section. Verset 9, qui parle du salut, et que le salut est le but de notre foi. Donc la foi dans l'épreuve aboutit à notre salut. Donc je crois que c'est important de parler de ça, parce qu'on vit dans un monde tellement marqué dans le péché que nous aurons, chacun d'entre nous, des épreuves. La question n'est pas de savoir si nous allons en avoir ou pas. La question, c'est de savoir quand. Parce que nous aurons tous des épreuves. Et ça fait partie du monde dans lequel on vit, ça fait partie de notre nature pécheresse. Les épreuves sont le lot de notre vie, même si nous sommes des chrétiens. Le Seigneur ne nous a pas dit, une fois sauvés, les épreuves gommées. Non, non, non. Le Seigneur ne va pas effacer les épreuves. Au contraire, il va être avec nous dans les épreuves, mais va nous apprendre à expérimenter de la joie, même dans les épreuves. Alors, premier élément, la source de notre joie. Il faut cliquer, oui, c'est... Voilà, c'est bon. Il faut que je me rappelle de voir la souris. La source de notre joie. Alors verset 3, il nous fait naître à une vie nouvelle. Gardons ensemble le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, le début de cette bénédiction, hein, l'auteur, Pierre, veut bénir Dieu, il veut que le nom de Dieu soit béni. Et la première raison qu'il donne, c'est que Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle. Et c'est intéressant parce que nous souvent on parle de Dieu, mais Pierre ici nous présente Dieu comme étant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a cette idée des deux personnes de la Trinité qui sont déjà présentes dans ce passage. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, il mérite toutes nos bénédictions, le Seigneur. Tu sais. Il mérite qu'on le bénisse. Il mérite qu'on le célèbre. Il le mérite parce que Dieu, c'est un Dieu de grande compassion. Le salut que Dieu nous donne s'enracine dans la grande compassion de Dieu. Et plus nous nous habituons au salut, plus nous minimisons la grande compassion de Dieu. C'est si tu es gracié, l'habitude se perd aujourd'hui, hein. Mais en tout cas en France, le président avait le droit de gracier les condamnés à mort. Maintenant qu'on n'a plus de condamnés à mort, il n'y a plus de grâce présidentielle. Tu sais. Mais c'est vrai que plus le tort est grand, plus la condamnation est grande, plus grande est la grâce. Tu sais. Moins la condamnation est grande, moins grande est la grâce. Tu sais. Et c'est la raison pour laquelle, dans le message de l'Évangile, l'apôtre Paul, notamment, et puis le Nouveau Testament en général, met tellement l'accent sur le péché. Tu sais. Nous sommes sauvés du péché. Romains 1 met l'accent sur la colère de Dieu que provoque le péché. Le péché, dans notre vie, provoque la colère de Dieu. Et là encore, souvent les gens viennent au Seigneur et dans leur témoignage, ça ressort. Hein. Ouais, le Seigneur m'a touché, le Seigneur il m'aime, tu sais, puis il répond à mes prières. Tu sais. Et puis oui, on parle un petit peu, ouais, le Christ est mort pour nos péchés, il m'a pardonné. Mais je me demande si on est toujours conscient de la profondeur de notre péché. Tu sais. Et je me demande aussi si on est conscient de la profondeur de notre péché au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne. Ouais, je pêche, oui, je suis pêcheur, tu sais, oui, je pêche. Mais c'est des petits péchés, tu sais, puis on s'habitue à ces petits péchés-là. Parfois même, on les nourrit, ces petits péchés-là, vous imaginez, tu sais. Au lieu de vraiment lutter contre le péché, puis de voir le péché comme un mal tellement profond que par la grâce de Dieu, nous devrions tout faire pour combattre contre le péché. Donc, le texte nous dit, de Pierre nous dit que si Christ nous a fait naître à une vie nouvelle, c'est à cause de sa grande compassion. C'est vraiment par compassion, tu sais, que le Seigneur nous donne la grâce d'être toujours sensible à la compassion de Dieu. Tu sais. Imaginez-vous que vous êtes dans votre maison et puis qu'il y a un incendie, puis que quelqu'un brise la porte parce que vous n'êtes pas rendu compte, vous commencez même peut-être à perdre un peu conscience. Il brise la porte, il rentre dans la maison en flammes et il vous sort. Généralement, ce sont des pompiers qui font ça. Tu sais. Mais imaginez-vous, qu'est-ce que vous allez vivre, tu sais, en particulier lorsque vous rencontrez cette personne-là par après. Tu sais, et probablement que même 10 ans après, ou 20 ans après, vous allez encore être profondément touché par ça. Au point où quand des gens partagent ces émotions, ils ne peuvent même pas s'empêcher de pleurer, tu sais, d'être profondément touché même des années après. C'est pourquoi on n'est pas touché comme ça par le salut de Jésus-Christ. Tu sais, on parle du salut de Jésus-Christ d'une manière tellement normale, tellement habituelle, tu sais, qu'on ne réalise peut-être pas la grandeur de la compassion de Dieu, puis la grandeur de cette colère de laquelle le Seigneur nous sauve. Tu sais. Moi, je pense qu'on a besoin de prier le Seigneur pour que le Seigneur nous sensibilise davantage à l'aspect terrifiant de la colère de Dieu, de cette colère dont nous sommes sauvés. Parce que c'est en partie ça, le salut, c'est d'être sauvé de la colère de Dieu. Alors, le Seigneur nous a fait naître à une vie nouvelle, à cause de sa grande compassion, mais pour nous donner une espérance vivante. Alors, vous voyez, la proposition principale de ce verset, c'est-à-dire Le sens principal du verset, c'est Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle. Et Pierre va donner des idées supplémentaires pour habiller cette proposition principale. Tu sais, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Alors, c'est sûr que cette expression, d'abord, démontre la souveraineté de Dieu parce que c'est lui qui fait naître. C'est pas nous qui nous faisons naître. C'est généralement, quand tu parles de naissance, c'est pas les enfants qui se font naître, c'est les parents qui nous ont mis au monde. Et c'est la même chose, c'est Dieu qui nous met au monde, et c'est une vie nouvelle. Et encore une fois, l'apôtre Paul fait souvent des comparaisons dans ses épîtres avec l'ancienne vie puis la vie nouvelle, avec la vie dans les ténèbres et la vie dans la lumière, avec la vie qui nous caractérisait, c'est-à-dire une vie de mort. Puis il nous a sortis de la mort pour nous amener à la vie, tu sais. Quelque chose qui est mort ne peut pas se régénérer en soi-même, là, tu sais. Donc, il nous a fait naître à une vie nouvelle, mais le texte nous dit, pour une raison. Il y a une raison. Et ça, c'est intéressant, pour nous donner une espérance vivante. Nous n'avons pas d'espérance dans cette vie, tu sais, à moins de compter sur l'État-providence. Peut-être que l'État-providence est pour vous une espérance, mais depuis que les États-providence existent, nous voyons les limites des interventions de l'État pour aider le peuple. Malgré la bonne volonté, tous les politiciens ne sont pas des véreux, il y en a bien qui veulent vraiment aider, mais malgré toute la bonne volonté, nous n'avons pas assez de moyens, c'est clair. Même alors que le gouvernement disait cette semaine, en parlant des sinistrés, des inondations, si vous n'êtes pas assurés, nous on va vous aider. T'sais. Puis je pense que bien des politiciens sont bienveillants, ils aimeraient faire ce qu'ils peuvent, mais ils sont limités. Et parfois nous sommes déçus, parfois nous en voulons au gouvernement. Nous aimerions même que le gouvernement remplace Dieu, t'sais, puis puisse répondre à tous nos besoins. Heureusement qu'il ne peut pas le faire parce qu'on s'appuierait sur lui plutôt que sur Dieu. T'sais. Mais toujours est-il, nous avons besoin dans notre vie d'espérance et d'espérance qui dépasse ce qui caractérise notre vie humaine. T'sais. Tout ce en quoi nous essayons de mettre notre espérance déçoit, tôt ou tard. Tôt ou tard. Là, j'ai rencontré son papa Morin, comment il s'appelle, François Morin. Et puis, ce que je ne savais pas, c'est que François est pianiste. Je sais pas, est-ce que vous connaissez François, son papa? Hein, vous savez qu'il est non-voyant. Et c'est un très bon pianiste. Moi, au camp, j'ai découvert comme pianiste. Après ça, j'ai discuté avec lui, on a parlé de musique. Il a fait son bac en musique à l'université, tout ça. Vous savez que les musiciens, ils sont souvent... ils aiment tellement la musique que la musique, ça prend toute leur vie. Et pour les musiciens, souvent, la musique, c'est leur espérance dans la vie. Mais souvent, les musiciens frappent un mur à un moment donné. Parce que c'est comme si tu fais le tour de ton art et qu'à un moment donné, ton art ne te satisfait plus autant que tu aurais pu l'espérer. Nous pouvons mettre notre espérance dans tellement de choses, dans notre travail, dans notre art, dans la famille. Vous savez, souvent, nos enfants, nos propres enfants, parfois même notre conjoint nous déçoit, nous trahit. Nos enfants ne prennent pas la route qu'on aimerait, tu sais. Et puis, souvent, on est trahi. On est blessé. Et nous nous rendons compte que toutes ces sources dans lesquelles nous mettons nos espoirs ne satisfont pas réellement. Mais ici, le texte nous parle d'une espérance qui est vivante. C'est quelque chose qui ne meurt pas, cette espérance. En fait, on pourrait la décrire en utilisant toutes sortes d'adjectifs, mais on va parler de cet héritage qui est incorruptible, mais ça ne disparaît pas. Cette espérance que Dieu nous donne, c'est une espérance vivante. Vous voyez les expressions utilisées. Il nous fait naître à une vie nouvelle, une espérance vivante. C'est dynamique, l'intervention que Dieu fait dans nos vies. Il nous donne quelque chose que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes. C'est pour ça que l'apôtre Pierre a l'air pas mal excité là, quand il nous décrit tout ça. Peut-être pas autant que Paul. Paul, dans certaines de ses épîtres, il commence à parler, puis tellement excité qu'il passe à autre chose, il finit pas ses phrases. Là, mais on sent quand même dans ces versets toute une vigueur, tu sais, que Pierre est en train de nous transmettre. Donc, il veut nous donner une espérance vivante. Et le texte nous dit, le moyen qu'il a utilisé, c'est par la résurrection de Jésus-Christ. C'est un moyen miraculeux. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un de ressuscité. Et pourtant, je crois. D'ailleurs, Pierre, il dit à un moment donné, vous y croyez, on l'a lu tout à l'heure, sans l'avoir vu. Tu sais, il y a une dynamique dans la foi chrétienne qui dépasse notre condition humaine. Tu sais. Et le moyen que Jésus utilise, que Dieu utilise pour nous sauver, c'est par la résurrection, c'est par un miracle. C'est pour cela qu'il est question de foi. Tu sais. Mais c'est extraordinaire quand on sait que l'espérance vivante vient par la résurrection de Christ. Si la résurrection de Christ n'existait pas, dit l'apôtre Paul, notre foi serait vaine. Est-ce que ça vous intéresse de placer votre foi dans quelque chose de vain? Moi, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, là, ça ne m'intéresse absolument pas. Alors, soit je suis complètement givré, comme on dit, là, puis que je suis aveuglé, qu'il me manque un raisonnement intellectuel en quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, ou soit véritablement cette espérance miraculeuse qui nous vient par un miracle de la résurrection, elle est vraie, puis elle dépasse tous ceux auxquels je pourrais m'attendre et qui vient de ce monde dans lequel nous vivons. En fait, s'il y avait d'autres espérances aussi remarquables dans le monde, les gens se tourneraient vers ça. Mais nous sommes toujours, tôt ou tard, déçus lorsque nous tournons notre espérance dans toutes sortes de directions qui viennent du monde. Il n'y a que l'espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ qui peut réellement transformer notre vie. Et il est question de vie nouvelle dans ce verset. Deuxième élément qui fait la source de notre joie. Donc demandons au Seigneur de nous imprégner véritablement de cette vie nouvelle que le Seigneur nous donne. Que nous puissions jamais la considérer comme, en anglais on dit granted, vous savez, comme acquise, normale. C'est pas vrai, c'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait. Deuxième élément dans le verset 4, c'est que Dieu a préparé pour nous un héritage extraordinaire. Alors, mes parents, avant de mourir, des années avant de mourir, ils avaient fait leur testament. Et leur testament, dans leur testament, ils avaient marqué que ma sœur et moi, on hériterait de la maison. Je partage la maison en deux. Et ils ont fait faire des papiers, ça c'était possible en France. Tu fais des papiers comme quoi officiellement, la maison appartient à tes enfants, mais tu peux en jouir pendant tout le reste de ta vie. C'est-à-dire que tes enfants deviennent propriétaires, mais en fait, toi, tu peux l'entretenir, payer les taxes, tout ce que tu veux, là. Et ça reste à la maison parce que tu y vis, tes enfants ne peuvent pas te mettre dehors. C'est comme ça, c'est la loi. Mais en faisant cet arrangement avant de mourir, ça simplifiait beaucoup toutes les questions d'héritage. Tu sais, et ça coûtait moins cher par la suite. Tu sais. Alors mes parents avaient fait ça. Donc moi, je savais que j'avais un héritage. Mais je ne pouvais pas en jouir. Tu sais, ça veut dire que moi, si j'avais besoin d'argent pour refaire le toit de ma maison, c'est bien dommage, mais je ne peux pas vendre une partie de la maison de mes parents pour obtenir de l'argent et refaire mon toit. Tu sais. Mais je savais que j'avais un héritage, c'était légal, les papiers étaient faits devant les notaires, ou je ne sais pas quelle profession s'occupe de ça, probablement les notaires, oui. Donc je savais que j'avais un héritage. Et c'est vrai que quand j'y pensais, parfois c'est excitant. Tu sais, tu dis, je vais avoir un héritage. Tu sais. Mais ici, le texte nous dit que Dieu lui-même a préparé pour nous un héritage. Et c'est un héritage bien meilleur que celui que mes parents auraient pu préparer pour ma sœur et pour moi. T'sais. Il a préparé un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre. C'est un héritage indestructible, incorruptible. Une maison, il y a des chances que ça dure longtemps, mais c'est pas indestructible. On n'a qu'à regarder des photos ou des reportages de la guerre en Ukraine. Ça, il paraît que notre ministre des Finances avait un appartement en Ukraine. Parce que je pense qu'elle vient de là, c'est son origine. Mais si un missile tombe sur l'appartement, c'est fini, tu sais. Tu perds ton avoir, tu perds ton héritage, tu sais. Et à la limite, tu peux même perdre ton héritage. Parce que toi, tu vas le gaspiller, Ou parce que peut-être tes parents, à la fin de leur vie, ils avaient peut-être besoin de plus d'argent qu'ils pensaient, ils ont peut-être été très malades, on a peut-être dû vendre la maison pour payer tous leurs soins, et ça aurait pu arriver avec, dans notre cas avec ma sœur et moi. T'sais. Mais ici, il s'agit d'un héritage que rien ne peut corrompre. C'est incorruptible. C'est un héritage, nous dit Pierre, qui ne perdra pas de sa beauté. Alors, c'est pas juste un cadeau extraordinaire que Dieu nous donne. Vous savez, quand on parle d'héritage, on parle d'argent. Et généralement, moi, quand je pense à l'argent, je pense pas à un chef-d'œuvre qui ferait en sorte que j'utiliserais le mot beauté pour parler de l'héritage. Mais Pierre, il utilise le mot beauté. Tu sais, il y a une beauté dans cet héritage-là. C'est pas juste un avantage pécunier ou financier ou économique, là. C'est beau, cet héritage. Et quand c'est beau, c'est quelque chose que tu admires. Tu sais, quand je suis allé en France, il y a quelques années, avec ma sœur, on a fait un petit voyage en Suisse. Puis pendant des années, mes parents et moi, on allait en vacances en Suisse. Puis le Seigneur m'a sauvé en Suisse. Donc on est allé à l'école biblique où le Seigneur m'a sauvé. Je voulais la montrer à ma femme. Puis on a visité certains endroits que j'avais visités quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent. T'sais. Et puis on a pris un petit train à Crémaillère, vous savez, qui monte jusqu'au pied des glaciers. Puis même, vous pouvez aller à l'intérieur du glacier, puis aller sur un promontoire qui est le plus élevé, je crois, de l'Europe ou du coin. En tout cas, ton train, il passe à travers les glaciers. Maintenant, je ne sais pas ce qui va arriver avec la fonte des glaciers, mais en tout cas... Et nous, on n'est pas monté jusqu'au glacier, jusqu'en haut, parce que ça coûte cher aussi. T'sais. Donc, on est resté à la dernière station avant les glaciers. Puis là, tu sors du train, tu lèves les yeux, tu vois trois montagnes, le Mönch, l'Eiger, et puis le troisième, je ne me souviens plus. Une des montagnes, la paroi est à pic, carrément à pic. Je ne sais pas si ça fait un kilomètre deux de haut, je ne sais pas trop, c'est impressionnant. Tu sais, tu te trouves là, tu regardes, ça t'envahit tellement, c'est impressionnant. Puis c'est beau. Tu sais, les montagnes, si vous parlez aux Suisses qui aiment les montagnes, ils aiment faire des balades en montagne. Moi, je trouve ça extraordinaire, les montagnes. C'est d'une beauté indescriptible. Tu sais. Ben, c'est un peu comme ça, l'héritage de Dieu. Là. C'est d'une beauté pratiquement indescriptible avec nos termes humains. Tu sais. Et quand on va recevoir cet héritage, comment on dit ça au Québec? On va être flabbergasté, c'est comme ça qu'on dit? Je ne me rappelle plus, c'est la bonne expression. Parfois, je ne sais plus quelles expressions sont françaises ou québécoises, mais celle-là, je sais que c'est québécoise. Mais on va être ahuri. T'sais, on va être bouche bée. Et puis, des louanges vont sortir parce qu'on ne pourra pas les retenir devant cet héritage que le Seigneur nous réserve. Il ne perd pas de sa beauté, mais ça, c'est un héritage céleste. Hein. Il n'y a rien dans ce monde qui peut arriver à la cheville de cet héritage que Dieu nous réserve. C'est céleste. Mes amis, les bénédictions que nous avons en Dieu sont des bénédictions célestes. Et même les bénédictions terrestres dont nous jouissons, c'est des bénédictions que Dieu nous donne dans sa bonté. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, il fait briller son soleil sur les bons et les méchants, nous dit la Bible. C'est ces bénédictions terrestres dont les hommes jouissent, ce sont des bénédictions célestes qui viennent de Dieu. Mais malheureusement, l'être humain ne le reconnaît pas. Et au lieu de se tourner vers Dieu, de l'adorer, de lui soumettre sa vie, l'être humain veut vivre une vie indépendante de celle de Dieu. Mais il perd tellement, tellement de beauté, tellement de bénédictions, en voulant s'autogérer, en se rebellant contre Dieu. Dans son désir d'être autonome, il se prive de tout ce que Dieu, dans sa bonté, dans sa grandeur, dans sa compassion, sa miséricorde, nous offre. Le verset 5 nous dit que Dieu nous garde. Il nous garde de quoi? Verset 5. Alors, il tient réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde. Et il nous garde par sa puissance, nous dit le passage. Il nous garde par sa puissance. Moi, je suis très content que Dieu me garde par sa puissance. Parce que je sais que je ne peux pas garder le salut de Dieu par mes propres forces. De toute manière, ce serait anti-biblique de croire que c'est par nos œuvres que nous pouvons garder notre salut. C'est pas par nos œuvres qu'on l'obtient, ce n'est pas par nos œuvres qu'on peut le garder. C'est parce que Dieu est puissant et il va nous garder. Vous vous rendez compte là? Ce matin, à l'église où j'ai prêché, heureusement que le proverbe ne s'applique pas, le proverbe qui dit jamais 203, parce qu'il faudrait que je prêche ce soir encore. Ce matin, j'ai parlé d'Isaac. Isaac, d'un certain côté, il est modèle de foi. D'un autre côté, il tombe dans les mêmes travers que son père Abraham. Et malgré ça, Dieu est bon envers lui, Dieu le bénit. Et dans une année de famine, il permet que tout ce qu'il a planté se multiplie, tu sais, puis qu'il devienne de plus en plus riche. Tu sais. Mais c'est pas par sa propre puissance que Isaac a pu garder les promesses que Dieu lui a faites. C'est par la puissance de Dieu. Tu sais. Je veux dire, c'est une folie de penser que moi, par mes bonnes habitudes chrétiennes, ma lecture de la Bible, mon témoignage, ou je ne sais pas, des décisions que j'aurais prises pour Dieu, que je puisse garder cet héritage et que je puisse être satisfait de mes démarches pour garder mon salut. Autant la Bible nous encourage à faire tout notre possible pour marcher avec Dieu, autant nous avons besoin de la toute-puissance de Dieu. Encore un paradoxe. Le texte nous dit aussi, il nous garde par sa puissance, par la foi. Alors vous voyez, il nous garde par sa puissance au moyen de la foi. Mais même la foi, c'est un don que Dieu donne. Donc c'est Dieu qui solidifie notre foi. C'est Dieu qui fait grandir notre foi. Mais nous, nous sommes appelés à utiliser les moyens de grâce que Dieu met à notre disposition pour grandir dans la foi. Encore un paradoxe dans la vie chrétienne, tu sais. Mais c'est au moyen de cette foi, par sa puissance, que Dieu nous garde pour ce salut à venir. Il est présent, le salut. Nous l'avons aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Mais nous allons vivre pleinement cette vie éternelle quand nous serons en présence de Dieu. Et le texte nous dit, il nous garde pour ce salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Donc il y a toute une dimension du salut que nous ne connaissons pas encore, même si nous sommes sauvés. Vous vous rendez compte, le salut, c'est de vivre en présence de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit que nous nous voyons comme au travers d'un voile. Tu sais. On est un petit peu comme ça, là, quand on regarde le salut de Dieu. On voit de la lumière, on voit... C'est fantastique. On sait par l'intuition spirituelle, par le Saint-Esprit, par la lecture de la Bible, que ce salut est extraordinaire. Mais on voit encore comme ça. Tu sais. Ce salut-là, il est prêt à être révélé. Là, tu sais. Puis à un moment donné, c'est comme si toutes les œillères que nous allons avoir sur les yeux vont tomber. Puis là, on va voir ce salut-là. Vous vous rendez compte? Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, quand le Seigneur m'a sauvé, j'avais 15 ans, puis mes parents m'avaient élevé dans la foi chrétienne. Donc ils m'avaient parlé du salut, ils m'avaient parlé du Seigneur, mais j'avais une bonne connaissance de la Bible, tu sais, pour autant qu'on peut avoir en étant adolescent, tu sais. Puis le jour où Dieu m'a sauvé, là, j'ai senti comme s'il y avait des écailles qui tombaient de mes yeux. Carrément, là, je vous le dis, j'ai senti comme ça. C'est comme si tout ce dont on m'avait parlé pendant des années, d'un seul coup, ça prenait vie, ça s'éclairait. Mais c'est un peu ça qu'on va vivre quand on va être en présence de Dieu. Là. Cette vue imparfaite que nous avons, vous vous rendez compte? On va tout voir. Ah, et ton père, il va tout voir. C'est vrai, il va tout voir, on va tout voir, parce que spirituellement, on est encore partiellement aveuglé, tu sais. Même si on est sauvé et qu'on a touché par notre salut, et on touche encore à la gloire de Dieu qui se révèle au travers de nous. Ça, c'est la source de notre joie. Alors ça, c'est un peu... Ça met la table un petit peu, hein. Ça nous aide à mettre les choses en perspective quand les épreuves arrivent. Parce que ça, les épreuves, on connaît ça. Puis quand on est dedans, on connaît la lourdeur des épreuves, on connaît la souffrance des épreuves, et on a besoin de cette belle description-là, de ce qui fait la source de notre joie, hein, pour contrebalancer ces épreuves et pour garder la joie même dans les épreuves. Alors regardons un petit peu les épreuves. La joie malgré l'épreuve. Donc versets 6, 7 et 8. Les épreuves éprouve notre foi. C'est ce que dit Pierre. Elles sont une cause de tristesse. Oui. Verset 6, voilà ce qui fait votre joie. Je viens de vous le décrire. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Paul parle d'épreuves, il parle de tristesse, mais il ne parle pas de désespoir. Il dit, on n'est pas désespéré. Même si notre vie est en cause, là, même si on traverse toutes sortes d'épreuves, il fait la description des naufrages, il a été laissé pour, comment dirais-je, lapider, tuer un nombre de fois, etc. Ben non, on dit, moi je serais désespéré à sa place. Lui, il n'est pas désespéré. Bien sûr qu'il est affecté, bien sûr qu'il y a des épreuves, il y a des tristesses. Ce paradoxe de la joie dans les épreuves ne consiste pas à nous fermer les yeux sur la réalité des épreuves. C'est vrai, nous pouvons souffrir et nous souffrirons. La souffrance fait partie de la réalité de la vie chrétienne. Et la vie chrétienne ne nous sort pas de notre humanité pour faire en sorte que, oh, ça y est maintenant, tout ce qui fait notre humanité, la souffrance que nous pouvons vivre, c'est fini, comme une baguette magique. C'est pas vrai, on vit encore dans un monde affecté par le péché et nous connaissons la souffrance, le deuil, la tristesse, etc. Le texte nous dit, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps. Ça fait partie de la volonté de Dieu que nous soyons attristés pour un peu de temps. Et c'est compréhensible à cause du monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Mais il le faut pour d'autres raisons aussi. La tristesse, la souffrance et la conséquence du péché, c'est vrai. Mais il y a d'autres raisons. Mais en attendant, l'apôtre Pierre nous dit, ces épreuves durent un peu de temps. Ah oui, quand tu es dans l'épreuve, là tu dis, j'ai hâte que ça finisse. T'sais. Et le temps est long à passer quand tu attends une bonne nouvelle. Ah, ça a été long, hein, pour arriver au mois de juin. Aïe, 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 vous avez attendu longtemps. Puis vous auriez aimé que les 24 heures passent plus vite, hein, c'est pas vrai ça? Vous achetez une maison, hein, vous avez signé, vous êtes passé devant le notaire, mais là vous prenez possession de la maison dans 2 mois, tu sais. C'est long là, tu sais. Mais aussi, les épreuves font aussi en sorte que nous trouvons que le temps passe pas vite. Et surtout quand nous souffrons là. Et quand nous souffrons et qu'on est sur un lit d'hôpital, on a une fille à l'église, elle a 40 ans, on lui a fait une opération à cœur ouvert, on a changé une valve du cœur, tu sais. Et puis ça s'est très très bien passé grâce à Dieu, c'est une bonne convalescence. Mais je lui ai pas parlé, mais j'imagine que quand tu es à l'hôpital, la première semaine, les 2-3 premiers jours étaient en soins intensifs, après elle est restée à l'hôpital, au bout d'une semaine elle est sortie, vous vous rendez compte, on lui ouvre le cœur, là, puis cœur ouvert, puis elle sort au bout d'une semaine, elle est en convalescence chez sa mère, tu sais. J'y ai pas demandé, mais je me suis posé la question quand elle avait mal, c'est parce qu'elle avait quand même mal après l'opération, il a fallu donner des antidouleurs, tout ça. Est-ce que tu trouves ça long? Tu sais, les gens qui n'ont pas l'habitude de souffrir, ils trouvent ça long, puis ils sont impatients. Ah, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive, Seigneur? Job a dû trouver ça long, c'est un bibite, tu sais. Mais c'est vrai que les épreuves sont là, nous dit le verset 6, mais même si on a l'impression qu'elles durent longtemps, elles éprouvent notre foi. Regardez verset 6. Celles-ci, plutôt le début du verset 7, servent à éprouver la valeur de votre foi. Ça, c'est intéressant. Parce que notre foi a une valeur. Tu sais, nous, on parle de Jésus-Christ, de la gloire du Seigneur, etc. Mais pourtant, ici, il est question de la foi qui vous vaudra louange, gloire et honneur. Ben moi, je pensais, quand je l'avais trouvé le Seigneur, c'est lui qui recevra toute la gloire. Mais Pierre nous dit d'abord que votre foi, elle doit être testée pour que sa valeur puisse être démontrée. T'sais. Donc, l'image du feu et de l'or que nous retrouvons au verset 7, le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, hein? Alors, l'épreuve est comparée à un creuset qui vient tester votre foi, tout comme le creuset est comparé à l'or qui est testé par... tu sais, quand tu fais fondre l'or, eh ben, tu peux épurer le métal et tu peux tester la valeur du métal. Donc, vous avez l'image du feu et de l'or en rapport avec notre foi. C'est-à-dire, la foi de chacun d'entre nous va être testée, elle va être évaluée. Pour moi, ce n'est pas un encouragement à travailler à mon salut par les œuvres, mais pour moi, c'est un encouragement à grandir dans la foi. Parce que ma foi va être testée. Et elle va être testée par le Seigneur. C'est... Heureusement que le Seigneur m'aime. Hein, parce que ma foi n'est pas toujours ce qu'elle devrait être. Et heureusement que le Seigneur nous a dit, oh, il ne suffit pas que tu travailles ta foi comme tu travailles des muscles pour que j'agisse dans ta vie. Il suffit que tu aies une foi comme un grain de CNV, puis tu vas voir, tu vas être capable de transporter des montagnes. Tu sais. Mais ma foi n'est pas le fruit d'un exercice que je ferai, tout comme on fait l'exercice de musculature. Parce que dans ce cas-là, la qualité de ma foi dépendrait de mes efforts. C'est Dieu qui construit notre foi. Hein, c'est lui qui a construit la foi d'Abraham. Ça a pris du temps pour qu'il construise la foi d'Abraham, tu sais. Ça a pris des luttes, des combats, des victoires, etc. Et Dieu fait pareil en nous, mais en même temps, il m'appelle à grandir dans la foi, tu sais. Mais cette fois-là, ma foi va être éprouvée. Et le texte nous dit que lors du test, la foi qui a résisté est plus précieuse de l'or. Donc on a quelque chose en nous là, qui est plus précieux que de l'or. Ça veut dire que si je suis appelé à grandir dans la foi, et même si la foi n'est pas mon œuvre à moi, c'est l'œuvre de Dieu, je suis appelé à grandir dans la foi, je suis appelé à investir dans quelque chose qui a plus de valeur que de l'or. Aujourd'hui, l'or, c'est la valeur refuge, hein, on dit ça. Je ne sais pas si c'est les bitcoins maintenant ou autre chose, mais en tout cas, vous savez ce que c'est, ce qui est de la valeur. Hein. On travaille pour obtenir de l'argent, on travaille pour acheter une maison, on travaille pour un niveau de vie. Mes amis, tout ça, ça n'a aucune valeur éternelle. Ce n'est pas que le Seigneur nous interdit tout ça, mais il faut placer les choses en perspective. Nous avons une foi qui a bien plus de valeur que tout cela. Est-ce que nous grandissons dans la foi? Est-ce que nous nous rapprochons de Dieu par la foi? Est-ce que nous lui demandons, Seigneur, viens au secours de ma foi, hein? Comme cet homme qui a répondu à Jésus en disant, viens au secours de ma foi, tu sais. Est-ce que nous avons besoin de l'aide du Seigneur? Et cette foi, nous dit le texte, eh bien, elle nous vaudra louange, gloire et honneur. Vous savez que quand on va être avec le Seigneur, on va louer le Seigneur, ça va être extraordinaire. Tous les gens qui décèdent actuellement, là, ils sont en présence de Dieu, au pied de son trône, nous dit l'Apocalypse, puis ils louent le Seigneur. Moi, quand je pense à mes amis qui sont décédés, à Marc Jabella, on pense à Jeff Laurent et puis d'autres amis aussi de l'église, des frères et des sœurs de l'église, et ils sont devant le Seigneur en train de louer le Seigneur. Mais vous savez que le Seigneur va partager avec nous sa gloire, ce que la Bible dit. Vous vous rendez compte? Moi là qui suis tellement petit, qui suis pécheur, le Seigneur va partager avec moi sa gloire. Oui, pourquoi? Parce qu'il va me rendre parfait comme lui, tu sais. Et dans ce cadre-là, c'est pas étonnant que cette foi, elle nous vaudra aussi louange, gloire et honneur. Non pas à cause de nos propres œuvres, mais cette louange pour notre foi, cette gloire pour notre foi, cet honneur pour notre foi viendra à travers Jésus-Christ qui a travaillé à travers nous. Tu sais. Mais tout de même, nous sommes appelés à grandir dans notre foi. Elle a de la valeur, notre foi, même si c'est le Seigneur qui agit en nous. Tu sais. Donc c'est un stimulant extraordinaire pour pouvoir grandir dans notre foi et utiliser les moyens que Dieu nous donne pour grandir dans notre foi, sachant que nous ne sommes pas tout seuls dans ce combat. Le Seigneur fait grandir notre foi aussi par son esprit et par sa parole. La joie dans l'épreuve. Regardez verset 8. La joie dans l'épreuve. Nous ne l'avons pas vue, pourtant nous l'aimons. Est-ce qu'on est cinglé en tant que chrétien? On aime quelqu'un qu'on n'a pas vu, verset 8. Jésus, vous n'avez pas vu, mais pourtant, vous l'aimez. Vous savez, la foi chrétienne, ce n'est pas un suicide intellectuel, ce n'est pas des gens qui devraient être enfermés à Pinel, t'sais. C'est des gens qui sont transformés par Dieu. T'sais. Et quand tu es transformé par Dieu, tu ne le vois pas Dieu comme tel, mais tu sais qu'il est réel. Tu sais qu'il est vivant. Il vit en toi, il vit dans tes frères et tes sœurs. Tu sais. Donc le Seigneur, si on ne l'a pas vu, pourtant on l'aime. Et le texte nous dit, non seulement vous l'aimez, vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas une question de légalisme, de loi, d'efforts à faire pour obtenir notre salut. C'est une question d'amour avec le Seigneur. En lisant ce texte, moi je ne peux pas penser à autre chose que Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu nous donnes, cet héritage dont Pierre parle. Et Seigneur, je t'aime encore plus. Parce que tu me réserves tout ça, alors que je ne mérite rien. Vous voyez comment Pierre vient faire grandir notre amour par la description de cet héritage chrétien dans ces quelques versets. Donc, nous ne l'avons pas vu, pourtant nous l'aimons. Nous ne l'avons pas vu, pourtant nous avons confiance en lui. Bon, on va reprendre la question d'Isaac, puisque c'est tout frais dans ma mémoire. Même défi que son père. Tu auras un pays, tu auras une postérité, tu vas voir. Mais ta femme est stérile. Waouh! Ah ben écoute, Seigneur, peut-être il faudrait un plan B, ton plan A ne marche pas bien. Je vais accéder à la demande de Sarah, je vais prendre Agar comme femme, puis je vais avoir un fils par Agar. Le problème, c'est que ce n'était pas le plan de Dieu, ça. Le plan de Dieu, c'est avoir un fils par Sarah. Et Dieu lui a dit, malgré tes tentatives, ton manque de confiance, tu vas quand même avoir un fils par Sarah. Donc tes propres solutions, ça ne marchera pas. Et quand nous vivons avec Dieu, nous le suivons, c'est parce que nous avons notre confiance en lui, nous plaçons notre confiance en lui. Regardez Isaac, en plein milieu de la famine, il s'en va chez les Philistins et Dieu l'arrête. Il dit, pars pas en Égypte. Parce que Isaac avait la même idée qu'Abraham de partir en Égypte. Pays où coule le Nil, rive fertile, où il y avait du blé, etc. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Et c'est tellement fertile pendant 7 ans qu'il a pu mettre beaucoup de nourriture de côté dans les entrepôts pour les 7 ans de famine. T'sais. Mais en tout cas, quand il y avait des famines dans les pays avoisinants, et ça arrivait relativement souvent, ils venaient tous en Égypte. Dieu dit à Isaac, ne pars pas en Égypte, reste dans le pays promis. Mais Seigneur, c'est la famine. Seigneur, tu me promets un pays qui n'est même pas capable de nourrir sa population. T'sais. Pourquoi tu veux que j'y reste à l'intérieur du pays? Et pourtant, Isaac, il est resté. Il est resté pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à Dieu. Est-ce que nous faisons confiance à Dieu sans le voir encore? C'est ça la foi. Et Seigneur l'a béni. Cette même année-là, il a planté. Il a récolté au centuple, il est devenu de plus en plus riche et de plus en plus puissant, ce qui a provoqué la jalousie d'Abimélec et des Philistins, entre parenthèses. Alors, la joie dans l'épreuve, regardez, c'est une joie qui est glorieuse et en quelque sorte inexprimable. Regardez verset 8. Vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable. Comment ça se fait quand tu es marqué par la souffrance, tu as quand même une joie que tu ne peux pas décrire. Alors bien sûr, tu ne vas peut-être pas éclater de rire, comme tout le monde fait dans des portées, là, tu sais, où on veut se saouler de rire et d'amusement. Tu sais. Mais il y a quelque chose en toi là, qui fait que tu... Cette joie, elle est là. Tu sais. Tu peux pas l'exprimer, mais elle est là. Mais regardez quand même, avec Paul et Silas, la joie était là, et ils l'ont exprimée en chantant. Et en louant Dieu en plein milieu de la prison, jusqu'au point en plein milieu de la nuit, Dieu les a délivrés, vous vous rappelez de ça? Mais ça, c'est un contraste extraordinaire. Ça, c'est une grâce de Dieu. Quand nous sommes dans des épreuves qui devraient nous écraser, qui devraient nous anéantir, et qu'en même temps, il y a quelque chose en nous là, qui provoque une joie qu'on ne peut pas exprimer. Ça, c'est un vrai miracle. Et quand quelqu'un passe à travers les eaux de l'épreuve, à travers la tentation, prions le Seigneur en disant, Seigneur, par ta grâce, donne-leur ta joie glorieuse et inexprimable. Ça, c'est un véritable cadeau, une véritable grâce de la part de Dieu. Il y a quelques années, un voisin derrière chez moi est décédé, il avait un cancer du cerveau, juste derrière ma cour, là, en biais. Et il disait à tout le monde que Dieu allait le guérir du cancer. Tout le monde. Il disait à Dieu, Dieu va me guérir. Et il est mort. Je veux dire, comme témoignage, c'est pas fort là, tu sais. Tu dis que Dieu va te guérir, puis tu meurs. Alors sa femme m'a demandé à moi de faire le service. Tu sais, c'est une femme qui venait pas à notre église, là. Bon, ben, je dis, je vais faire ton service. Je me dis, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Je peux pas me cacher les yeux, tu sais, et puis ne me cacher la réalité. Il l'a dit à toutes les personnes qui arrivent au service, Dieu va me guérir. Alors moi, je veux parler de Dieu le jour de la cérémonie, qu'est-ce que je vais dire? Alors j'ai dit, écoutez, j'ai dit, notre ami avait la foi en Dieu. Puis vous avez tous dit que Dieu allait le guérir. Puis c'est pas vrai, Dieu l'a pas guéri. Mais je vais vous dire, la foi qu'il avait en Dieu a fait en sorte qu'il est resté serein et fidèle jusqu'à son départ. Et ce qu'il s'attendait de Dieu n'est pas arrivé parce que Dieu n'a pas voulu lui donner, mais Dieu lui a donné autre chose. Et ça, c'est fantastique quand dans l'épreuve, Dieu te donne la joie, la sérénité, une joie glorieuse et inexprimable. Conclusion. Verset 9. Il faut toujours que je regarde l'heure parce que d'une église à l'autre, ça change. Et puis l'après-midi, je n'ai pas tellement l'habitude de prêcher l'après-midi. Alors, notre salut est le but de notre foi, nous dit le verset 9. Regardons ensemble le verset 9. Car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Pourquoi je mets ma confiance en Dieu? Parce que je sais qu'un jour il va me ressusciter. Oh, il y a bien d'autres raisons. Hein. Parce qu'il m'aime, parce qu'il a pardonné mes péchés, etc. Mais je mets ma confiance en lui parce que je sais qu'un jour il va me ressusciter. Puis je vais vivre avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le but de notre foi, n'est-ce pas? Et notre foi, donc, nous permet de résister à l'épreuve, comme on vient de le voir dans ce passage. Si on fait une sorte de synthèse, notre foi nous procure de la joie. Et dernier élément, parce qu'elle est ma souris. Ah, voilà. Hop, c'est pas ça. Oh, mais c'est une belle photo, pareil. Notre foi nous amène au salut. Là, je sais pas où je suis. Ah, voilà, ça y est, voilà. Notre foi nous amène à notre salut. Quel genre de foi avons-nous? Sommes-nous transportés par les paroles de Pierre? Est-ce que ça nous encourage à marcher davantage dans la foi? Est-ce que cet après-midi, est-ce que vous êtes encouragé, puis que vous pensez à des circonstances dans votre vie, puis vous dites, Seigneur, je vais te faire confiance. Là, c'est difficile. Moi, je ne connais pas votre vie. Là, c'est difficile. J'ai un gros défi devant moi. Seigneur, je ne veux pas prendre des raccourcis. Je ne veux pas prendre des solutions. Je vais te faire confiance. Ça n'enlève pas ta responsabilité que Dieu te donne non plus. Il ne faut pas se tromper là. Peut-être que vous voulez construire votre vie. Vous voulez choisir un métier, vous voulez choisir une formation. Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Est-ce que vous vous inquiétez? Comment pourriez-vous manifester votre confiance en Dieu dans la situation qui est la vôtre aujourd'hui? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps autour de ta parole. Ce temps autour de ces beaux versets que nous lisons parfois, nous le confessons, bien trop vite, sans être touchés par ces paroles. Seigneur, aide-nous à être encore de plus en plus touchés par ces paroles, jour après jour. Seigneur, c'est toi notre héritage, c'est toi notre espérance. Merci Seigneur. Amen.